Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, le Père suprême, le Seigneur même, il est amour. J'ai bâti le toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. Les phénomènes intellectuels et spirituels comme étant, dans la plupart des cas, la manifestation des propriétés inhérentes à la matière commune. Par exemple, lorsque les eaux d'un lac sont soulevées par le vent, une vague se forme et projette à son sommet une écume brillante et blanche. Il s'agit là d'un phénomène déterminé, la vague et son apparence. Mais lorsque le calme revient, l'eau reprend son aspect paisible. Que reste-t-il de la vague? Rien, si ce n'est le fait qu'elle a existé. L'eau existe et demeure. La vague passe et disparaît. Pour le matérialisme, notre nature intellectuelle, spirituelle et morale est dotée d'un mode d'existence semblable à la vague. La matière seule existe. Enfin, par l'animal et à un degré supérieur à l'homme, cette matière peut faire émaner le sentiment, la pensée, la volonté. Cependant, ces phénomènes ne sont en réalité que le résultat temporaire d'une organisation de plus en plus développée. Lorsqu'elle se dissout à la mort, qu'arrive-t-il? Les phénomènes spirituels cessent de se produire, ainsi que l'agrégation des molécules qui les produisent. Et la matière du corps entre dans des combinaisons nouvelles, revêtant d'autres propriétés. Telle est la théorie que nous allons examiner ensemble. Pour le simple bon sens, dont les données nous serviront de point de départ, l'homme considéré dans sa nature totale permet d'observer deux ordres de faits. D'une part, nous trouvons en lui la forme, la couleur, le poids, propriété des corps, en bref, ce qui se manifeste à nos sens extérieurs. Et d'autre part, nous rencontrerons dans l'être humain la joie, la souffrance, la crainte, l'espoir, le désir, phénomène que ne perçoivent ni lui ni le toucher, mais seulement des sentiments internes, voire cachés. La ligne de démarcation est aussi profonde que tangible. De là, l'opposition universellement établie entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière, entre le physique et le moral. À ces deux classes correspondent deux sciences distinctes. Les savants qui étudient notre corps, ses formes, sa structure, la loi de sa vie, cultivent la physiologie. Les phénomènes de l'âme, de l'esprit, sa constitution et ses lois intérieures relèvent de la psychologie. Ancienne branche de la philosophie jusqu'au XIXe siècle. Nous passons à dessein sous silence la psychiatrie qui concerne l'étude et le traitement des maladies purement mentales. La physiologie et la psychologie emploient des méthodes on ne peut plus dissemblables, et pour cause. Elles se touchent en un grand nombre de points parce que l'âme et le corps coexistent étroitement, mais les moyens d'étude utilisés sont séparés par un abîme. Le professeur Beckler disait déjà au siècle dernier, l'animal appartient tout entier au physiologiste. Par les différentes fonctions qui concourent à sa conservation, l'homme aussi est un animal, mais un animal intelligent. Il pense, il réfléchit, il veut. Il a le sentiment du bien et du mal, du bon. Il résiste à ses besoins. Il les commande au lieu de leur obéir par instinct comme l'animal. Il y a des sciences de deux ordres. Les unes ont pour objet l'étude des phénomènes de l'esprit, les autres s'occupent des faits physiques ou naturels. Le matérialisme ne conteste pas la diversité des phénomènes, mais il insiste sur leur union étroite. Une sorte de faux spiritualisme sert les intérêts de ses partisans de l'unique matière contre laquelle nous luttons. Il nous représente l'âme comme ayant une vie propre, pouvant se connaître par elle-même et en elle-même d'une manière tout à fait distincte et séparée des organes. Cette âme, à laquelle il attribue une vie indépendante, se trouve dans le corps comme un capitaine sur son navire, avec radar pour voir au loin, radio pour correspondre et moteur pour se déplacer. L'âme se suffit à elle-même, mais elle dispose des sens et des membres du corps pour agir sur le monde extérieur et en obtenir des renseignements. En un mot, le corps n'est qu'un serviteur accourant aux sollicitations de l'âme. Cette conception se brise comme verre au contact des faits. Le corps n'est pas seulement le serviteur de la volonté, il est la condition même des manifestations de la vie spirituelle. Afin de s'exercer, toutes nos facultés ont besoin des organes et subissent leur action. Et Jésus dit bien, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Le corps n'est pas seulement le serviteur de la volonté, mais la condition même des manifestations de notre vie spirituelle. Les influences accidentelles que le corps exerce sur l'âme sont évidentes. Faites boire à quelqu'un une certaine dose d'alcool et sa raison lui échappe. Faites-lui absorber de l'opium et les manifestations de sa pensée, de sa volonté, de son subconscient disparaissent. Un homme sort paisiblement de sa demeure dans le plein exercice de ses facultés, se fait heurter par une auto, son front heurte le sol, on le relève sans connaissance et il se réveille amnésique. Les exemples ne manquent pas. Notre âme est soumise à des influences plus durables, qui ne résultent pas de faits accidentels, mais du jeu même de notre volonté et de notre organisation. Chacun de nous possède un certain tempérament, c'est-à-dire une manière bien à lui d'exécuter les fonctions de la vie. Ce tempérament détermine son caractère. Nous sommes gais, jaloux, coléreux, et notre volonté cède ou résiste. Mais ce caractère est bien là qui atteste l'action permanente de notre corps sur notre âme. Le genre de spiritualisme qui représente l'âme comme simplement logée dans un corps dont elle dispose à son gré, sans en subir l'influence, est donc faux. Il provoque même chez les individus une réaction qui appelle à favoriser le matérialisme. Il fallait que nous puissions en déterminer la cause pour voir clairement au fond de nous-mêmes. Oh non, le corps n'est pas le serviteur docile de l'âme, loin de là. Parlons maintenant d'un des faits les plus remarquables de notre nature, l'habitude qui se transforme très vite en réflexe conditionné. Certains d'entre elles naissent sous l'empire d'une excitation à laquelle la volonté ne s'oppose plus. Le phénomène débute dans le corps. D'autres trouvent leur source, en l'absence de toute émotion sensorielle, dans le corps, par le truchement de causes morales. Jean-Jacques Rousseau disait avec justesse, « Les passions de la chair sont loin d'être la cause unique du désordre des mœurs. » La vanité ne crée-t-elle pas la plupart des libertins? Combien de fois n'avons-nous pas rencontré de très jeunes garçons se promenant fièrement la cigarette au bec? Ils ont voulu faire l'homme, et pour cela ont lutté contre les dégoûts, le malaise, avec une grande persévérance. Peu à peu, l'habitude viendra, l'excitation des muqueuses et des sens réclamera sa satisfaction. L'habitude se transformera en réflexe, procédant d'une cause morale et s'enracinera dans les organes. La volonté aura donc créé dans le corps des besoins dont elle deviendra esclave, conditionnée par son absence de résistance au maître tyrannique rencontré dans sa jeunesse. Nous possédons des inclinations, des penchants appartenant à notre nature propre. Ils sont le fait de notre constitution primitive et répondent à ce que nous avons déjà nommé notre tempérament. Nous entrons donc dans la zone d'influence du physique sur le spirituel. Nos inclinations ne sont toutefois pas absolument fixes. Elles croissent ou diminuent sous l'influence de notre comportement. Les penchants prennent plus d'emprise si la volonté cède et perdent de leur force lorsqu'elle résiste. La colère, la jalousie, comme l'amour ou la persévérance, découlent dans une certaine mesure de notre nature, mais n'en tombent pas moins dans le domaine de la spiritualité. Un homme violent ne devient pas doux par une détermination unique. Il a besoin de l'aide de Dieu. Résumons-nous. Les penchants de notre nature s'affaiblissent ou s'accroissent selon le rôle que joue notre volonté. Étant donné qu'ils sont le résultat du jeu de nos organes, il faut reconnaître que l'acte continu de la volonté peut atteindre et modifier la vie du corps dans ses ultimes profondeurs. Or, la volonté du chrétien n'est que le fruit de sa spiritualité. Cette dernière pensée étonne peut-être, mais nous sommes contraints de l'admettre d'une manière instructive. Pourrions-nous soutenir que l'homme qui sert à ses passions arrive au même résultat spirituel que celui qui lutte, se domine, se possède? Le corps est en étroite union avec l'âme. Mais c'est en vain que le matérialisme tente de trouver un appui dans cet axiome. La Bible dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». L'âme et le corps composent l'unité de notre individu. Dans cette union, se manifestent deux puissances opposées. Tantôt l'action découle du corps et la spiritualité consent ou résiste, tantôt l'action part de l'âme et le corps ou la raison obéissent ou se rebellent. Il s'agit d'actions réciproques au-delà desquelles le regard humain ne peut pénétrer parce qu'il est parvenu à la racine de notre être, de notre existence. C'est là que règne ou ne règne pas notre Créateur. Où commence la vie du corps et où débute l'existence de l'âme dans son sens absolu? Y a-t-il ici un commencement ou une fin? L'homme devient spirituel en suivant la volonté de son Dieu. Il reste chair s'il la rejette et vit selon ses instincts. Mais il reste âme et corps à la fois dans tous les mondes observables de son existence. Une âme à l'état pur ne s'est jamais montrée à une autre, mais elle ne s'est jamais non plus manifestée à elle-même. Un corps à l'état pur n'est pas un homme, c'est un cadavre. Mais lorsque deux éléments bien étroitement unis sont visiblement divers et peuvent entrer en lutte, il est pour le moins étrange de conclure que ces deux éléments ne sont pas deux, mais un. C'est pourtant la conclusion du matérialisme. Elle contredit le sens commun. Si certains veulent, par des procédés scientifiques, soutenir une gageure contre la logique, le simple bon sens, et ramener à une seule les deux natures intrinsèques de l'homme, âme et matière, ce n'est pas le matérialisme qui triomphera. Rien ne semble plus clair que l'idée de la matière, dira-t-on au premier abord. Toutefois, si nous nous prenons à réfléchir et à rechercher sérieusement ce que sont les corps en eux-mêmes, nous nous engageons dans une étude étrangement ardue. Bientôt, nous arriverons à reconnaître que le concept de l'esprit qui pense, sent, veut, de cet esprit qui est en nous-mêmes, surpasse de beaucoup en clarté l'idée de cette matière qui est indivisiblement liée à notre individu, mais sans tomber directement sous le regard de Dieu. Peu avant son arrestation, Jésus devait dire à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » établissant ainsi cette sorte d'indissolubilité de la matière et de l'esprit, mais montrant bien que leurs réactions respectives ne peuvent toutefois s'interpénétrer.
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement en tant qu'art, nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6, rue Étienne Falconet, 31130, Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6, rue Étienne Falconet, 31130, Balma.
Au revoir, que le Seigneur vous garde, et à mercredi prochain, même heure.